Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Radio de la Paix. Aujourd'hui, nous recevons Dr Jean-Marie Kagabo. Il est spécialiste des principes et droits fondamentaux au travail pour la région Afrique au sein de l'Organisation internationale du travail, OIT. Dr Jean-Marie Kagabo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Soyez les bienvenus dans nos studios.
Merci, merci pour l'accueil.
Alors avec vous, nous allons parler des nouvelles estimations mondiales sur le travail des enfants, et surtout en Afrique. Alors sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Dites-nous docteur, quelle lecture faites-vous de la situation du travail des enfants en Afrique?
Merci pour la question. Pour vous donner un tableau de notre travail sur les statistiques, nous produisons des statistiques tous les 4 ans. Nous en sommes à la 7e édition. Les premières statistiques, nous les avons produites en l'an 2000. Aujourd'hui, on est en 2025. Et les chiffres au niveau mondial, c'est 138 millions d'enfants qui sont en situation de travail forcé. Donc, d'après les statistiques qui ont été publiées le 11 juin 2025. Sur les 138 millions, 87 millions sont en Afrique subsaharienne. C'est énorme.
Oui, ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup. Ça représente presque les 2/3 des enfants en situation de travail des enfants.
Mm-hmm. Et donc, voici un peu la situation en Afrique. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de travail forcé ici en Afrique. Et donc, quelles sont les catégories d'âge?
Alors, sur le plan purement statistique, oui. Nous faisons 3 catégories d'enfants, de 5 à 11 ans, de 12 à 15 ans et de 15 ans à 17. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette catégorisation? Déjà, si je commence les moins de 5 ans, les moins de 5 ans, en principe, ne peuvent pas travailler, même si vous voulez les forcer, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de comprendre l'instruction de ceux qui veulent les faire travailler. Donc, on commence les calculs à partir de 5 à 11 ans et ça correspond, si vous voulez, à l'école primaire, si on compare ça au système éducatif. Et la catégorie de 12 à 14 ans, ça correspond aux jeunes adolescents et ça correspond au premier cycle de l'école secondaire. Et quand on finit le premier cycle de l'école secondaire, soit on fait un apprentissage pour apprendre un métier, soit on continue au lycée, au collège et plus tard à l'université. Et donc, ce sont ces 3 catégories-là que l'on essaie de mesurer.
Mmh. D'accord. Et quels sont les plus sujets? Est-ce que c'est plus les filles ou les garçons?
Question très intéressante. En bas âge, c'est-à-dire entre 5 et 11 ans, c'est égal. On a aussi bien des filles que des garçons qui travaillent. Mais lorsque l'on avance, on trouve beaucoup plus de garçons en situation de travail des enfants que des filles. Mais ça, c'est sans compter le travail domestique, c'est sans compter les tâches ménagères. Donc, souvent, les filles, ce sont elles qui sont dans le travail ménager. Et souvent, on oublie de comptabiliser cela parce que le travail ménager est fait pour la famille. Mais quand, si on ajoute cela, ce sont plutôt les filles qui sont lésées.
Mmh. Mais qu'est-ce qui explique cela selon vous? Pourquoi est-ce qu'on garde plus les filles à la maison et les garçons à l'extérieur?
En Afrique en particulier, c'est culturel. On pense que de toutes les façons, la fille va se marier, va partir dans une autre famille. Elle sera sous la responsabilité de son mari. Donc, il n'y a pas besoin de la former beaucoup. Il n'y a pas besoin d'investir dans sa formation scolaire académique, puisque son rôle traditionnel, c'est celui d'être au service de son mari et de ses enfants. C'est surtout cette raison culturelle.
Mmh. Et donc, on pense que les garçons sont plus aptes à ramener de l'argent.
Exactement. Et ce sont des fonctions traditionnelles. Ça change petit à petit. Et c'est là aussi toute l'importance de l'éducation. Les gens qui ont été à l'école auront tendance à faire scolariser leurs propres enfants, filles ou garçons, et puis à les pousser, y compris les filles, à trouver du travail plutôt que à dépendre de leurs époux.
Mmh. Et donc, là, quels sont les différents secteurs où on trouve le plus d'enfants qui travaillent ?
Mondialement, oui. Y compris en Afrique, c'est surtout l'agriculture. Mm-hmm. En Afrique, c'est presque 70% des enfants qui sont dans le secteur de l'agriculture. Mm-hmm. Et c'est souvent l'agriculture, c'est souvent l'agriculture familiale. On ne parle pas d'agriculture industrielle. On parle de le pain de terre familiaux où les parents ont besoin des bras de leurs enfants pour les aider dans les champs. Donc, c'est le secteur qui emploie le plus d'enfants. Après, vient le secteur qu'on peut appeler de l'industrie. Ça peut être les mines, ça peut être les carrières. Ça emploie dans le monde entier jusqu'à 27%. Et après, il y a le secteur du travail domestique. C'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux filles, par exemple. Oui. L'aide aux familles, l'aide aux parents âgés, l'aide à ses petites sœurs ou à ses petits frères.
Et on se demande, est-ce que ça, c'est tellement mauvais d'avoir son enfant qui nous aide quelquefois aux tâches ménagères ou peut-être qui nous aide dans les champs? Parce que les parents se disent, bon, voilà, c'est mon enfant, il a un certain âge, il est capable de m'aider. Est-ce que c'est tellement mauvais? Ou alors, quelle est la limite, en fait, entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis?
Oui, ça, c'est une grande question, en Afrique en particulier, parce qu'on estime que l'enfant doit être initié au travail de ses parents. Et on appelle ça aussi du travail socialisant. À vrai dire, ça, ce n'est pas vraiment le travail des enfants. Si on entre dans la définition et la catégorisation du travail des enfants, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle les pires formes du travail des enfants. Et ça, c'est des catégories qui sont interdites et même punissables. Il y a quatre catégories de pires formes du travail des enfants. La première catégorie, c'est tout ce qui peut être lié à l'esclavage, à la traite, au travail forcé. Donc, on peut imaginer qu'un enfant soit kidnappé et qu'il se retrouve ainsi être obligé de travailler pour tel ou tel employeur. Donc ça, c'est une catégorie. Notre pire forme de travail des enfants, on peut imaginer qu'un enfant soit utilisé dans le cadre de la prostitution ou de la pornographie. Ça, c'est une pire forme. Donc ça, c'est interdit, c'est même puni par la loi. Et notre pire forme, c'est par exemple utiliser un enfant pour des activités illicites. Imaginez pour le transport de la drogue ou ce genre de choses. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les travaux dangereux. Donc les travaux dangereux, ce sont ceux qui mettent en danger la santé, la sécurité ou le développement de l'enfant. Ça, c'est interdit. Il faut proscrire cela. Maintenant, à côté de cela, il y a des enfants qui peuvent aider leurs parents. Et c'est là qu'entre en jeu le jugement des parents et le jugement de la société en général. Si votre enfant à la maison vous aide à faire la vaisselle, à mettre le couvert, ça, ce n'est pas du travail des enfants. Mais si vous lui faites faire des travaux d'aide à la grand-mère ou à d'autres personnes et que ça dépasse, par exemple, on calcule ça sur une moyenne de 21 heures par semaine. Si c'est plus de 21 heures, ça commence à devenir délicat parce que ça va empiéter sur le temps que l'enfant devrait consacrer à ses études. Voilà. Et si l'enfant est entre 5 et 11 ans, c'est encore plus problématique. Et on n'aimerait pas que les enfants qui ont entre 5 et 11 ans travaillent, quelles que soient les tâches, parce qu'ils sont encore en plein développement. Ils ont besoin aussi de jouer. Il faut accorder du temps aux jeux des enfants. Maintenant, si on va à la catégorie entre 12 et 14 ans, ce sont de jeunes adolescents. Là, oui, ils peuvent faire ce qu'on appelle les travaux légers. Et c'est au niveau de chaque pays, de chaque gouvernement, qu'il faut établir la liste des travaux légers que les enfants peuvent accomplir en fonction des secteurs d'activité économique. Et après, tu as ceux qui ont entre 15 et 17 ans. Mm-hmm. là, certains sont en apprentissage et certains apprentissages, ça demande carrément de travailler. Ce qu'il faut s'assurer là-bas, c'est que l'enfant est réellement en apprentissage et non pas comme un travailleur, comme un adulte. Oui. Et qu'il ne fasse pas certains travaux dangereux. La raison est simple. Si vous comparez ça au permis de conduire d'une voiture,
oui.
Pourquoi est-ce que le permis de conduire est à 18 ans? C'est tout simplement parce que avant, même si l'enfant peut conduire mécaniquement la voiture, mais c'est parce qu'on estime que il n'est pas encore suffisamment développé au niveau mental pour pouvoir faire certains jugements.
Okay.
Voilà. Donc c'est pareil, si l'enfant manipule des machines, le jugement que peut avoir un adulte par rapport à un appareil et la tension qu'un adulte peut avoir, l'adolescent de 17 ans ou de 16 ans peut ne pas l'avoir.
Mm-hmm.
Voilà.
Et donc, on va revenir aussi à une question essentielle, peut-être qu'on aurait dû la poser au début. Quelle est la définition que l'OIT donne du travail des enfants?
C'est un peu ce que je viens de dire. Le travail des enfants, il est défini par l'âge.
Par l'âge.
Voilà.
Okay.
Quand on parle de travail, il faut surtout regarder le travail qui contribue à un gain économique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, le gain économique, c'est quelque chose que l'on pourrait, c'est le gain que l'on pourrait obtenir si on travaillait à l'extérieur, par exemple, si on était salarié.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, le travail des enfants, c'est un travail que accomplit un enfant. Et qui permet de contribuer à son gain économique pour lui-même et pour la famille.
Mmh. Voilà. D'accord, voilà qui est plus clair. Et on aimerait bien savoir, est-ce qu'il y a un rapport entre la déscolarisation et le travail des enfants? Est-ce que parmi les 87 millions d'enfants, on trouve plus d'enfants qui ne vont pas à l'école?
La corrélation est très très claire.
Mmh.
Et dans toutes les régions, quand vous prenez les enfants qui vont à l'école et qui ne travaillent pas à côté, et que vous prenez les enfants qui vont à l'école et en même temps travaillent, et que vous mesurez ceux qui commencent par exemple l'école primaire et qui terminent, et les courbes sont très très claires. Ceux qui travaillent, à un moment donné, décrochent. Et là, je voudrais vraiment répondre souvent à ce qu'on entend de la part des élites africaines et qui disent « Ah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai travaillé et voici, je suis devenu ministre, je suis devenu directeur.
Mm-hmm. »
Mais en fait, si vous regardez, c'est plutôt une minorité. Les gens qui ont pu à la fois étudier en travaillant et qui ont pu aller très loin, c'est une petite minorité.
Mmh.
Et la grande majorité a été coincée à un moment ou à un autre. Et en partie parce qu'ils travaillaient.
On se rend compte que travailler empêche les enfants de poursuivre les études. Mais est-ce que vous direz qu'aller à l'école est aussi une solution contre le travail des enfants?
Absolument. Mmh. Ça fait partie c'est la recommandation numéro une.
Mmh.
Et ce qui entre en... Alors, quand les enfants ne vont pas à l'école, c'est qui est responsable? C'est ça la grande question. Ça peut être les parents pour des raisons socio-culturelles. Si on estime que ma fille, de toute façon, elle va se marier à 17 ans et elle sera prise en charge par son futur mari, il n'y a pas de raison que j'investisse là-dessus. Mais en grande partie, c'est plutôt une responsabilité de l'État. Est-ce qu'il y a suffisamment d'écoles dans toute... les régions, dans toutes les provinces. Est-ce que l'école est gratuite? Parce que certains parents n'ont pas la capacité de payer les frais scolaires, mais aussi les uniformes, les cahiers, etc. Mais aussi et surtout, est-ce que l'école est obligatoire, en particulier l'école primaire? Si vous prenez des pays, même européens comme la France, ce qui a vraiment contribué à la diminution du travail des enfants, c'est quand l'école primaire est devenue obligatoire sous Jules Ferry.
Mmh.
C'est vraiment ça. Mais heureusement, la plupart des gouvernements africains ont aujourd'hui rendu obligatoire la scolarisation des enfants et gratuite. Bon, après, derrière, il faut arriver à tout assurer, mais c'est déjà un pas.
Oui.
C'est déjà un pas.
Alors, est-ce que vous direz que le travail des enfants apporte quelque chose à un pays? Est-ce qu'on le ressent économiquement sur le PIB?
Absolument. Et ça, c'est capital. À vrai dire, la question du travail des enfants, c'est une question de développement. Et donc, quand on lutte contre le travail des enfants, on contribue au développement. Le sous-développement est une conséquence, ou est une cause du travail des enfants, mais en même temps une conséquence.
Okay.
Donc, et un enfant donc, qui travaille, c'est-à-dire qui n'est pas scolarisé, c'est-à-dire qu'une fois adulte, en fait, il ne va pas réellement contribuer au développement du pays parce qu'il n'aura, il n'aura pas acquis les capacités pour contribuer au développement du pays. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, quand on compare les différentes régions, donc vous prenez l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie et le Pacifique, les courbes sont très, très claires. En Asie, le produit intérieur brut des pays a augmenté et parallèlement, le travail des enfants a diminué. En Afrique, le PIB a augmenté un tout petit peu. Donc, du coup, aussi, la réduction du travail des enfants a diminué un tout petit peu. Mais il y a une autre raison aussi en Afrique qui fait que les courbes n'arrivent pas vraiment à diminuer suffisamment. C'est la croissance démographique.
Okay.
Donc, l'Afrique fait beaucoup d'enfants et forcément, dans ces jeunes enfants, il y en a un bon nombre qui tombent dans le travail des enfants.
Et moi, je me demande, est-ce que économiquement, le travail que les enfants font n'arrange pas quand même le pays d'une manière ou d'une autre? Ça fait rentrer plus d'argent?
Surtout les parents.
Plus les parents.
Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a aucun parent qui est content de faire travailler son enfant, honnêtement. Donc, le parent qui fait travailler son enfant, c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. Imaginons un choc. Le choc, ça peut être climatique. Il y a une sécheresse. Le choc, ça peut être un décès dans la famille. Et s'il n'y a pas de protection sociale pour assister les gens qui subissent ce genre de choc, si vous êtes parent, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de vous débrouiller comme vous pouvez. Et du coup, le problème, c'est un problème de survie. Et donc, si votre adolescent, si vous devez choisir que votre adolescent aille à l'école, encore faut-il qu'il y ait une école si jamais c'est une catastrophe, le choix, c'est est-ce qu'il va à l'école ou il aide à aller chercher un peu de nourriture pour nourrir la famille parce que sa maman vient de décéder, ce genre de choses. Voilà. Donc, ça apporte quelque chose à contre ce genre de choc et probablement un tout petit peu pour l'économie nationale si on mesure cela. Mais la grande question, c'est de savoir est-ce que les gouvernements peuvent mettre en place des systèmes de protection sociale pour contrer les chocs ou même s'ils le voulaient, est-ce qu'ils le peuvent?
Oui. Et donc, on en arrive aux initiatives mises en place par l'OIT. Vous, avec tout ce que vous faites déjà, est-ce que vous constatez quand même un progrès au niveau de la lutte contre le travail des enfants?
Globalement, oui. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle de ce rapport.
Oui.
Donc, comme je vous disais, on a commencé à mesurer le travail des enfants depuis l'an 2000. Donc, nous en sommes à la 7e édition. Et quand vous regardez les courbes, c'est tous les 4 ans qu'on mesure. Donc, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, il y a une courbe descendante. Donc, on a réduit. À l'an 2000, le chiffre était de 245 millions d'enfants. En 2024, il s'agit de 138 millions. Donc, il y a une diminution de presque de moitié.
Oui.
Donc, ça, c'est important à souligner. Et ça, ça concerne aussi l'Afrique. Cette diminution, elle est aussi vraie pour l'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces progrès qu'on arrive à atteindre, c'est grâce à des efforts qui sont faits par les gouvernements et les autres partenaires pour lutter contre le travail des enfants. C'est ce que ça veut dire.
Oui. On se demande alors, mais quels sont les principaux facteurs qui expliquent le fait que, malgré tout ça, le travail des enfants persiste encore?
Comme je disais tout au début, c'est une question de développement. Le travail des enfants est une question de développement. Mm-hmm. Donc, comme on ne peut pas se développer du jour au lendemain, c'est un processus lent et qui a ses propres couacs dans ce processus. Mm-hmm. C'est pour ça que la lutte contre le travail des enfants est aussi un processus qui est lent. Donc, si vous regardez les défis du développement sur le continent africain, le premier, c'est celui de la pauvreté. Et il y a des familles qui vraiment sont en dessous du seuil de pauvreté. Mmh. Donc ça c'est, et ce sont ces familles-là qui vont souvent amener leurs enfants à travailler avec elles. Ça, c'est un défi majeur, la pauvreté. L'autre défi, c'est celui de l'éducation. Est-ce qu'on a suffisamment d'écoles et dans tous les coins, dans toutes les régions et sous-régions de l'Afrique? Et même s'il y en a, quelle est la qualité? Est-ce que les enseignants acceptent d'être mutés là-bas? Mmh. Il y a combien d'élèves dans la classe? Mmh. Ce sont des défis de développement et qui demandent beaucoup d'argent, à vrai dire. La protection sociale, on en a parlé. Il y a un aspect, un autre aspect qui est très important, à vrai dire, c'est l'emploi des parents eux-mêmes. Si un parent est au chômage, il recourt à tout ce qu'il peut pour la survie de sa famille. Donc ça peut comprendre de demander à son fils d'aller faire ceci ou cela au lieu d'aller à l'école parce qu'ils ont besoin de tout simplement de manger. Et l'autre facteur, comme je disais, c'est celui des facteurs socio-culturels ou les facteurs démographiques. Si on prend par exemple la question du planning familial, etc., mm-hmm. c'est un vaste programme. Et pour arriver à maîtriser ça, ça prend du temps, ça prend des années. Ce qui compte, c'est les efforts qui doivent être faits et qui sont faits, mais qui doivent être constants, mais c'est des efforts du développement en général.
Mmh, d'accord. Et donc, vous pensez que l'Afrique a des chances de réussir à éliminer ce phénomène-là?
Ça ira de pair avec le développement.
Oui.
Et on a fait des projections en fonction des efforts qui sont faits aujourd'hui dans le monde entier, pas spécifiquement en Afrique. Les efforts, par exemple, qui ont été faits entre nos dernières estimations, c'était en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, il y a les quatre dernières années. Quand on regarde les efforts qui ont été faits pendant cette période pour diminuer le nombre de travail des enfants, on a calculé que si le monde, et ça on prend vraiment le monde dans sa globalité, mmh. veut éliminer le travail des enfants en 2030, mmh. il faudrait multiplier par 11 les efforts qui sont faits aujourd'hui. Ouais. Multiplier par 11. Si on veut éliminer le travail des enfants en 2045, il faudrait multiplier par 7 mmh. les efforts d'aujourd'hui. Et si on veut éliminer le travail des enfants en 2060, il faudrait multiplier les efforts par 4.
Oui.
Voilà. Donc, c'est un gros défi, mais en même temps, c'est possible. Mm-hmm. C'est ça la bonne nouvelle.
Oui, c'est possible. Et donc, pour y arriver, quelles sont les actions que l'OIT recommande, surtout au gouvernement? Qu'est-ce que nos États africains, par exemple, doivent faire?
C'est répondre aux défis du développement dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est mettre en place des politiques éducatives. C'est mettre en place des systèmes de protection sociale. Pour faire face aux chocs qui peuvent arriver aux familles les plus démunies pour qu'ils puissent garder leurs enfants à l'école. C'est le travail des parents et des adultes dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est la capacité de s'adapter aux contextes qui sont changeants aujourd'hui. Il y a des crises à gauche, à droite, et ça peut arriver n'importe où, à vrai dire, les crises. Ça peut être les conflits, ça peut être les changements climatiques, ça peut être des déplacements de population. Comment est-ce que, comme pays ou comme gouvernement, on s'adapte à ces situations de crise pour que les enfants qui sont affectés par ces crises n'abandonnent pas l'école? Parce qu'encore une fois, c'est la grande arme pour lutter contre le travail des enfants, c'est de les maintenir à l'école. Mmh. C'est la question des protections juridiques et institutionnelles. En Afrique, ça va dans l'ensemble au niveau des lois. Mmh. On a ratifié toutes les conventions. La grande question, c'est la mise en œuvre.
Oui.
C'est la mise en œuvre. Donc, on doit continuer à insister sur la mise en œuvre des lois, mmh. y compris la répression, y compris lorsque, par exemple, on parle des pires formes du travail des enfants, il faut réprimer absolument. Mais sans aller jusqu'à la répression, il y a par exemple l'inspection du travail, et il y a les services de protection de l'enfance. Il faut que tous ces services puissent fonctionner normalement dans le pays. Et évidemment, il faut aussi de la coopération internationale. Mm-hmm. Tout simplement parce que tous les pays ne sont pas dotés de la même manière. Mais aussi, chaque pays peut connaître ses propres crises. C'est l'intérêt de la solidarité internationale, c'est que n'importe qui peut, à un moment ou à un autre, en crise. Et si on n'est pas aidé par d'autres pays, on peut avoir des difficultés à s'en sortir. Mais quand nous parlons des responsabilités des gouvernements, évidemment, on parle de budget, et les budgets des pays, des gouvernements, proviennent essentiellement de l'espace fiscal, des impôts. Mmh. Mais tous les pays n'ont pas les mêmes revenus en termes d'impôts. C'est pour ça que la solidarité internationale est nécessaire, notamment pour aider ces pays à se sortir de la pauvreté, pour qu'ils atteignent à un niveau où leurs propres recettes, leurs propres impôts peuvent subvenir à tous les besoins du pays.
Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux parents qui, eux, emmènent leurs enfants à travailler? Quels conseils on peut leur donner?
Alors, le conseil qu'on peut leur donner, c'est ne réfléchissez pas dans le court terme. Mmh. Ça peut être difficile, mais si vous réfléchissez dans le moyen et long terme, faites un effort pour garder vos enfants à l'école. Toquez à toutes les portes possibles, en commençant par le gouvernement, les ONG et tout le monde, pour vous assister à garder vos enfants à l'école. Le calcul que vous faites en disant que l'enfant va m'aider pour que la récolte soit meilleure, etc., c'est un calcul à court terme. C'est vraiment le message à faire passer aux parents. Et normalement, le désir de chaque parent, c'est que son enfant aille plus loin que lui.
Oui.
Ouais. Et vous ne pouvez pas... votre enfant ne peut pas aller plus loin que vous si dès son jeune âge, vous le limitez à votre métier.
Mmh. Eh bien, voilà qui est clair pour le gouvernement comme pour les parents. Et vous annoncez qu'il y a une prochaine conférence mondiale sur le travail des enfants. Et c'est pour quand exactement?
C'est pour l'année prochaine. Mmh. Et ça va avoir lieu au Maroc. Et évidemment, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on organise des conférences mondiales? On peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait les statistiques? Mmh. Ça sert à quoi, tout ça?
Oui.
Pour les statistiques, la réponse se résume en cette maxime qui dit que ce qui ne se mesure pas, ne se gère pas.
Mmh.
Voilà. Donc, supposons que vous avez des invités à la maison dimanche prochain. Si vous ne connaissez pas le nombre de gens qui vont arriver, mmh. ça vous sera difficile de savoir ce que vous devez préparer pour mmh. eux. Pareil pour le travail des enfants et les statistiques. Et ça, c'est un encouragement envers tous les gouvernements d'investir dans les enquêtes nationales, dans les statistiques nationales pour eux-mêmes, pour qu'ils puissent maîtriser ce phénomène et savoir comment le gérer.
Mmh.
Maintenant, si je reviens à votre question relative aux conférences mondiales, l'intérêt de cette conférence-là, c'est de garder cette question à l'agenda international.
Mm-hmm.
C'est une question de plaidoyer. Si on ne le fait pas, la question va passer à la trappe, on va parler d'autre chose, et c'est là on va l'oublier. Donc c'est ça l'intérêt. Et ce genre de conférence regroupe les leaders mondiaux, les décideurs, parce que c'est finalement une question de décision politique, de volonté politique. Et par rapport à l'Afrique en particulier, parce que, comme nous avons dit, les deux tiers des enfants qui travaillent sont en Afrique.
Mmh.
C'est une bonne chose que cette conférence ait lieu en Afrique. Pour cette conférence mondiale, nous en sommes à la 6e édition. On en a eu, la première, c'était en Norvège, suivie des Pays-Bas, Brésil, Argentine, Afrique du Sud, et maintenant le Maroc l'année prochaine. le but, ou disons l'intérêt d'avoir ces conférences en Afrique, c'est aussi en profiter pour faire le plus de plaidoyer possible envers les gouvernements africains, envers les populations africaines. Voilà. Et donc, avant d'aller au Maroc, notre travail comme OIT, mais aussi tout notre partenaire, c'est de mobiliser toutes les parties prenantes de la question du travail des enfants au niveau de chaque pays, mais aussi au niveau régional, pour qu'il y ait réellement une auto-évaluation du travail qui a été fait par chaque pays depuis la dernière conférence. Donc, on passe de conférence en conférence, mais il faudrait pouvoir s'évaluer honnêtement et dire sur ce que nous avions pris comme engagement tous ensemble. Nous avons pu faire un certain nombre de choses. Il y a de bonnes pratiques que nous sommes fiers de partager avec les autres. Il y a des défis et des leçons apprises. Et nous allons à cette conférence globale avec une vraie connaissance de la problématique chez nous.
Ouais. Voilà donc qui est clair, amis auditeurs, la prochaine conférence mondiale sur le travail des enfants se tiendra donc l'année prochaine au Maroc. Merci à vous, docteur Jean-Marie Kagabo, pour tout cet éclairage.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous êtes spécialiste des principes et droits fondamentaux au travail pour la région Afrique au sein de l'Organisation internationale du travail, OIT. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Amis auditeurs, restez avec nous sur notre fréquence, nos programmes se poursuivent.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.